Voilà, bonjour à tous, frères et sœurs. Est-ce qu'il vous arrive d'être inquiet? Oui, il vous arrive d'être inquiet. Alors, peut-être tout à l'heure, on pourra dire un petit peu quelles sont nos inquiétudes. Hein? Parce que le Seigneur a une grande nouvelle pour nous, eh bien, c'est qu'il ne désire pas que nous restions dans l'inquiétude. Et il veut nous libérer de ça. Et ce matin, c'est ce que j'ai à cœur de partager au travers de divers passages de l'Écriture et d'une parabole de Jésus, puisque nous sommes aussi dans les paraboles. Et quel beau psaume tout à l'heure, Jean-Denis nous a lu, le 32. Du coup, j'y reviendrai un petit peu. Alors, c'est vrai que y a des gens plus inquiets que d'autres. Puis peut-être il y a diverses périodes de la vie aussi où on est plus sensible à l'inquiétude. Il faudrait que je demande à ma famille si je suis quelqu'un d'inquiet. Je pense l'être à pas mal d'égards et à d'autres peut-être pas assez. Je ne sais pas. Je vois que dans notre pays, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui inquiètent les gens. D'ailleurs, on fait grève. Hein. Les retraites, l'avenir, aura-t-on suffisamment de pensions et puis une pension suffisamment élevée pour tout ça, ça inquiète. Il y a d'autres inquiétudes. Passé un certain temps, il y avait une grosse inquiétude sur le terrorisme. Notre inquiétude a un peu diminué, je pense, ces derniers temps sur ce sujet. Mais il y a des inquiétudes qui sont là. Quelles autres inquiétudes notre société rencontre-t-elle? Ah, c'est vrai. En ce moment, oh oui, j'ai pas l'air de m'en soucier, c'est parce que j'ai pas de chinois dans mon école. Bon, le coronavirus, effectivement, y a un côté qui peut nous inquiéter en fonction du contexte qui attise l'inquiétude aussi. Hein. Et puis on peut continuer. Alors, j'ai juste envie comme ça qu'on puisse prendre 2-3 minutes pour que chacun disent, tiens, ben, moi, il y a ça qui peut m'inquiéter. Ce sujet, ça peut être un sujet d'inquiétude pour moi. Alors, qui veut commencer à dire pourquoi il peut s'inquiéter? Alors, Jean-Denis,
l'avenir des enfants.
Tu t'inquiètes pour tes enfants?
Ah, oui.
Eh ben moi aussi.
Surtout que...
Et les petits-enfants.
Et leur salut.
Et leur âme. D'autres inquiétudes? Les études. Quelles études on va faire? Est-ce qu'on va les réussir? Est-ce qu'on va être au niveau ou pas? Quelles autres inquiétudes?
L'environnement.
L'environnement. Hein, la planète, la pollution. Quelles autres inquiétudes? Donc des lois. Hein, des lois qui passent. Qu'on peut juger mauvaise et qui nous inquiète. Et puis des inquiétudes du quotidien. Hein. L'autre jour, je n'ai pas vu que ma femme m'a envoyé un SMS pour dire qu'elle travaillait plus tard. J'étais inquiet, ne la voyant pas rentrer. J'ai appris dans les années à confier mon inquiétude au Seigneur, mais l'autre soir, je reconnais que ça cogitait un moment, vous voyez. Après, vous faites vos films et tout. Ça vous arrive, vous, de vous faire vos films, de vos inquiétudes, et ça y est, là, vous avez réinventé toute une vie derrière, quoi. Voilà. La cérémonie d'enterrement, elle est ficelée, le truc, tu te dis, ah, ça tourne, ça cogite, là, tu. Ah ouais. Eh bien, ce matin, on va voir que le Seigneur veut nous garder loin de l'inquiétude. Amen. Alors on va voir plusieurs passages. D'abord parce que en Proverbe 12, verset 25, eh bien il y a un constat qui est fait. Proverbe 12, 25 fait ce constat. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. L'inquiétude, ça nous mine le moral, ça nous casse notre énergie, ça nous enlève notre joie, ça nous plonge dans un tourment intérieur. Voilà, on est abattu. Est-ce que vous avez déjà senti ça pour vous-même?
Oui.
Mais il y a une bonne parole qui nous réjouit, et le Seigneur, ce matin, veut nous délivrer cette bonne parole et nous dire « Ne vous inquiétez de rien ». On y reviendra. On va lire plusieurs passages sur l'inquiétude et voir que le Seigneur nous met en garde contre ce piège, et on le verra aussi, cette arme de Satan. Mais d'abord, réfléchissons juste à ce qu'est l'inquiétude. L'inquiétude, c'est la peur pour des choses qui pourraient éventuellement arriver et faire mal. L'inquiétude, c'est avoir mal par avance du mal qui peut-être va nous arriver. L'inquiétude, c'est souffrir de potentielles souffrances. Mais la chose, c'est que dans tout ce qu'on redoute, dans tout ce qu'on craint, dans tout ce pour quoi on s'inquiète, il y a quand même une grosse proportion des choses qui n'arrivent pas. Mais on a quand même eu mal pour elle. Et en quelque sorte, on souffre par anticipation d'hypothétiques choses qui pourraient nous faire souffrir. Alors, vous voyez qu'on est un petit peu tordu quand même, hein. Et le Seigneur veut nous dire, écoute, c'est bien suffisant d'avoir mal au moment où ça fait mal. Pourquoi avoir mal d'avoir peut-être mal? Vous voyez, c'est comme tu vas chez le dentiste ou tu te dis ça va faire mal. Oh, j'ai un élève la semaine dernière, il s'est ouvert l'arcade et ça allait, il pleurait, il avait mal quoi. Mais bon. Mais alors, quand on lui a dit qu'il allait peut-être avoir des points, alors là, ça a pris des proportions incroyables. Il avait peur d'avoir mal, de ce qui allait. Et puis finalement, il n'en a pas eu. Et puis tout est allé bien. Mais alors, il était dans une panique totale. Et c'est un petit peu ça l'inquiétude. C'est l'état d'anxiété, de souffrance dans lequel on est plongé à la perspective d'une souffrance future qui n'est pas sûre d'arriver. Et des fois, on anticipe en grossissant la souffrance qui va survenir aussi. Alors finalement, quand on y réfléchit, c'est quand même dommage de vivre des tas de tourments intérieurs pour des choses où 80% des choses n'arriveront pas. Et on est là, on se torture, on cogite, on ressasse, ça nous occupe, ça nous préoccupe, ça nous prend la tête, on se met dans des états. Et le Seigneur veut nous dire, écoute, cette souffrance-là, hypothétique par anticipation, écoute, moi, j'ai une bonne nouvelle. Je veux t'en décharger. Je veux t'en décharger. Alors, on va lire quelques passages. Par exemple, Jean 14, verset 27. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. Le Seigneur nous fait un formidable cadeau. Nous avons un Dieu merveilleux. Moi, je trouve Dieu extraordinaire. Parce que dans cette question de l'inquiétude et de cette souffrance qui est liée à l'inquiétude, le Seigneur veut nous débarrasser d'un fardeau, libérer d'un poids, en nous disant, mais écoute, moi j'ai pas envie que tu souffres pour rien, inutilement, par anticipation, je veux te faire un cadeau, et le cadeau c'est la paix. La paix dans ton cœur. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Le Seigneur nous fait un cadeau merveilleux, extraordinaire, c'est de mettre sa paix dans nos cœurs face à ce qui peut nous alarmer, nous troubler, nous inquiéter. Et ça, c'est une vérité à embrasser, à saisir, à vivre dans nos vies, d'accueillir la paix de Dieu face à nos soucis et à nos inquiétudes. Le Seigneur Jésus a continué à enseigner aux disciples en Luc 12. Prenons Luc 12. Au verset 22. Nous reviendrons plus tard sur la parabole qui précède et qui introduit cet enseignement de Jésus. Mais là, on va lire au verset 22, Luc 12, 22. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie et plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste ? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi ? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Des paroles formidables, n'est-ce pas ? On s'inquiète de ceci, on peut s'inquiéter de cela, se torturer l'esprit et se ronger. Le Seigneur sait que nous avons besoin. Nous avons des besoins et ils ont besoin d'être comblés. Le Seigneur le sait, le Seigneur s'en occupe. Ne crains pas, petit troupeau. Alors, nous allons maintenant en 1 Pierre 5, verset 7. 1 Pierre 5, 7. Et je vous encourage à noter ces versets, à les surligner dans votre Bible pour les moments où on est dans l'inquiétude, on est dans le tourment. C'est bien de relire ces versets. 1 Pierre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Et puis nous terminons par le magistral. Philippiens 4, verset 6. Alors là, si ce n'était pas assez clair, là ça va l'être. Philippiens 4, 6. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà le mot d'ordre. Le Seigneur ne veut pas que nous nous inquiétions. C'est-à-dire que nous conservions notre inquiétude, que nous tournions autour, qu'on la ressasse, elle est là, on ne la quitte pas, on ne s'en dessaisit pas et dit « Oh, tu t'inquiètes, c'est normal, tu te décharges sur moi. » Tu t'inquiètes, eh bien maintenant, tu fais connaître ton besoin avec des prières, avec des supplications, tu te décharges sur moi de tes soucis et moi en échange, je te donne ma paix. Il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Hein. C'est pour ça qu'il dit que votre cœur ne se trouble pas, ne s'alarme pas. La paix de Christ gardera vos pensées et vos cœurs. Alors d'abord, moi je veux vraiment louer le Seigneur, frères et sœurs, parce que nous avons une année devant nous, nous avons des défis devant nous et nous avons des sujets d'inquiétude. Oui, c'est vrai. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on souffre inutilement, qu'on se ronge le cerveau, les sens, par des choses qui pourraient arriver et finalement la moitié n'arriveront pas et on les a souffert comme si elles étaient arrivées. Je dis non, décharge-toi de tout ça, enlève cette souffrance. Croyez pas qu'on a assez de souffrance dans l'existence sans se rajouter une souffrance par anticipation hypothétique. Le Seigneur veut qu'on enlève ça. D'abord, parce que nous avons un Dieu qui nous aime. Pourquoi est-ce que nous pouvons ne pas nous inquiéter? Parce qu'il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Nous avons un Dieu qui nous aime. Amen. Il nous aime. Et parce qu'il nous aime, il prend soin de nous. C'est pas comme si nous étions en face de quelqu'un qui n'a pas de bienveillance pour nous et pas d'amour. Le Seigneur nous aime. Et en 1 Jean 4, verset 18, il y a quelque chose de très beau. 1 Jean 4, 18 nous dit: la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. L'amour parfait chasse la crainte. L'inquiétude, c'est donc cette crainte, cette peur de ce qui peut arriver, se produire. Mais quand nous croyons fermement que Dieu nous aime d'un amour entier, parfait, eh bien, cette certitude de l'amour de Dieu pour nous, elle va chasser la peur. La peur de l'inconnu. La peur, vous savez, en fait, l'inquiétude, le ressort de l'inquiétude, c'est la peur de la mort. Ultimement, hein, psychologiquement, en fait, nous avons peur de la mort, peur de l'anéantissement, peur de la ruine. Et il y a des choses qui nous inquiètent quelque part, c'est cette crainte ancrée au plus profond de nous, la peur d'être décomposé, la peur d'être ruiné. Voilà, ça s'abat comme un château de cartes et il n'y a plus rien. Et il y a cette crainte qui est là. Mais le Seigneur a vaincu la mort. Amen. Cette mort, souvenez ce verset qui nous dit que Satan, avec l'aiguillon de la mort, tenait les hommes dans la servitude. Ô mort, où est ton aiguillon ? Ô mort, où est ta victoire ? Eh bien, le Seigneur nous a délivrés de la crainte de la mort, nous a délivrés de la crainte d'être anéantis, ruinés. Et il y a une certitude en Jésus-Christ que jamais nous ne serons quelque part à l'intérieur décomposés. Vous voyez, c'est une décomposition de l'être intérieur. Jamais. Alors, bien sûr, parce qu'il y a l'amour de Dieu qui prend soin de nous, et parce qu'il y a sa puissance et sa souveraineté. En 1 Corinthiens 10, verset 13, le Seigneur ne dit pas qu'il ne peut rien nous arriver. Il parle de l'épreuve et de la tentation. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est vrai pour la tentation et pour l'épreuve. Le fait de lâcher prise, lâcher pied, perdre pied. Le Seigneur nous donne cette assurance de sa fidélité qu'il ne permet pas que nous soyons éprouvés, tentés, testés au-delà de nos forces. L'inquiétude, c'est que ça dépasse nos forces et que finalement, il y ait cette décomposition, cette sorte d'anéantissement de notre être intérieur, hein, cet écroulement. Ben, le Seigneur ne permet pas ça. Il dit, voilà, ce que je peux permettre dans ta vie, je te donne cette assurance et cette certitude. Ça pourra peut-être te faire mal, mais par contre, je le dose et je ne permettrai jamais qu'il y ait cet écroulement, cet anéantissement intérieur que tu redoutes. Ce spectre un peu de la mort, hein, quelque part. Cette fissuration personnelle, voilà. Non. Le Seigneur nous dit non, et je prépare l'issue pour que tu puisses le supporter. Alors, l'inquiétude, c'est justement cette crainte que ça soit au-delà de nos forces. C'est cette crainte que ça nous terrasse. Le Seigneur nous dit, d'abord, il y a beaucoup de choses dont tu t'inquiètes et qui n'arriveront certainement pas, dont je vais te préserver, déjà. Parce que ce que je permets, je le permets si c'est dans mon plan et que c'est bon pour ta croissance, pour toi, etc. Ça nous renvoie à l'épître de Jacques, hein, les épreuves. Il dit, mais si ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Je ne le mettrai pas dans ta vie. Et si je le mets, par contre, je te donne cette assurance par mon amour et ma fidélité que ça ne va pas te détruire. Et que tu en sortiras entier. Et puis, non seulement son amour, sa puissance et son plan, mais sa présence. Regardez Ésaïe 41:10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. La présence de Dieu. Nous avons un Dieu qui nous aime et qui agit pour prendre soin de nous. Nous avons un Dieu qui est puissant, qui est souverain, qui dose, qui mesure et qui est fidèle. Même s'il permet des choses que nous pouvons craindre, notre crainte est limitée parce que nous avons une assurance, une garantie que ça n'ira pas au-delà d'un seuil de fissuration. Voilà. Le Seigneur nous dit non. Et puis nous avons la promesse de sa présence personnelle. Le Seigneur, le Créateur qui est présent à nos côtés face à ce qui nous inquiète, face à ce qui nous trouble, nous alarme, face à ce qui nous fait peur. Et il nous dit, viens m'en parler. C'est en quelque sorte ce que Philippiens nous dit, hein. Viens m'en parler. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Allez, viens me parler de ce qui te fait peur. Viens me parler de ce qui t'alarme. Ça, t'as peur, oui, ok, je comprends. Je le prends. Ça aussi, tu as peur? Je le prends. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Le Seigneur veut que nous puissions lui parler, venir avec notre liste d'inquiétudes, de choses qui nous effrayent, et les lui déposer. Mais ce n'est pas pour les reprendre. Si on les lui donne, ce n'est pas pour les reprendre après. Il dit, justement, c'est pour te décharger. C'est pas pour te recharger. Si tu t'en recharges, à quoi je sers alors? Et nous avons un formidable cadeau du Seigneur, c'est que nous puissions vivre cette existence terrestre sans avoir sur les épaules cette charge de tout un tas de choses qui nous inquiète par anticipation. On ne sait pas si elles arriveront ou pas, mais en tout cas on en souffre déjà. Le Seigneur nous dit, cette souffrance par anticipation, allez, tu la mets sur mes épaules à moi, et moi je mets ma paix sur tes épaules à toi. C'est quand même mieux d'avoir la paix sur les épaules que la charge. Amen. Mais ça, il faut qu'on le décide. Ça, il faut que on apprenne à le mettre en œuvre dans nos vies. C'est pour ça qu'il nous donne un ordre. C'est un impératif. Ne vous inquiétez de rien. C'est un impératif. Et lorsque je dis « Seigneur, c'est vrai, je ne devrais pas m'inquiéter, hein, mais quand même, je m'inquiète. » Quelque part, il faut que nous prenions conscience que nous désobéissons au Seigneur. Et puis, il y a une certaine mesure où on fait insulte un peu au Seigneur. Parce que on est en quelque sorte en train de dire au Seigneur, t'es là, mais je m'inquiète quand même. D'ailleurs, je m'inquiète de ce que tu pourrais permettre. On en viendrait presque à dire au Seigneur, Seigneur, tu m'inquiètes. Pourquoi est-ce qu'il y a un côté offensant pour le Seigneur, mais parce que on doute quelque part de sa bienveillance et de son amour? Seigneur, je doute que tu prennes vraiment soin de moi. Il y a un côté offensant parce que peut-être nous doutons qu'il est fidèle et qu'il dose et qu'il mesure ce qu'on peut supporter. Ah, Seigneur, ouais, j'ai un peu des doutes. Hein. Peut-être qu'on doute de sa présence à nos côtés. Où Paul disait, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, c'est une question de foi, et la foi, c'est cet honneur de faire confiance à Dieu. Seigneur, je te fais confiance, je crois résolument que tu m'aimes, je crois résolument que tu es souverain, je crois résolument que tu connais ce qui va se passer, tu vas doser, mais tu vas m'entourer. Et je ne vais pas être anéanti. Alors, ne pas s'inquiéter, attention, ne signifie pas être inconscient, désinvolte, imprudent, inconsidéré. Hein. Lorsque quelque chose peut... lorsqu'il y a une perspective de problème, de crainte, eh bien, le Seigneur veut que nous puissions faire ce qu'il y a à faire. Ça, c'est l'équilibre. Sinon, nous sommes complètement imprudents et inconsidérés. Et Éphésiens nous dit, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Oui, face à certaines situations, il y a des défis, il y a des choses, et bien le Seigneur nous demande de mettre en œuvre, d'agir. Peut-être on se dit, mais face à ça qui m'inquiète, je ne sais pas comment agir. Est-ce que le Seigneur n'est pas le Seigneur qui donne de la clairvoyance? Oui? Ben demandons-lui. Quand il nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu, il y a aussi ce côté où le Seigneur va nous éclairer sur ce qu'il y a à faire, s'il y a quelque chose à faire. Peut-être on se dit, ben je vois pas, je manque un peu de sagesse. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous sans faire de reproche. Le Seigneur veut nous éclairer. Et nous avons besoin, dans des situations qui nous inquiètent, de dire au Seigneur, d'abord Seigneur, je te fais confiance et je te remets mon inquiétude. Et puis, s'il y a quelque chose que je peux faire, ben, montre-moi. Moi, je ferai ce que j'ai à faire. Et puis toi, tu feras le reste. Alors, évidemment, il y en a qui mentionnaient les études, les partiels. Ben, c'est sûr que on peut être inquiet d'arriver à l'examen si on n'a pas étudié, hein. Et dire Seigneur, je ne m'inquiète pas, je te remets mon inquiétude. Oui, mais il s'agit quand même de faire ce que tu as à faire. Faire ce qui est juste. Tout à l'heure, on en revient à l'amour parfait chasse la crainte, mais la crainte suppose un châtiment. L'inquiétude qui accompagne le fait de ne pas avoir fait ce qu'il fallait faire, c'est normal, c'est le châtiment. Hein? Lorsque on aurait dû agir d'une manière adéquate et sensée et juste, et qu'on ne l'a pas fait, on en a les conséquences, et il y a de l'inquiétude qui va avec, c'est normal. C'est normal. C'est pas de cette inquiétude-là que le Seigneur veut nous décharger. Quoique, si on relit le psaume 32 de tout à l'heure, de Jean-Denis, il m'a interpellé, parce que c'est un psaume qui commence sur David, qui a péché. Et Il dit heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et qu'est-ce qui se passe? Et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Ça commence quand même dans la responsabilité de celui qui a péché, hein? Mais qui confesse. Et le Seigneur qui efface la peine du péché. Le verset 8, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Oui, le Seigneur veut nous éclairer, veut nous montrer ce qu'il y a à faire. Et le verset 10, beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Alors oui, même quand des fois on mérite l'inquiétude qui est la nôtre, eh bien même là, on peut dire au Seigneur, Seigneur, je sais que je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. Je n'ai pas fait ce qui est juste. Je te demande pardon. Mais tu vois mon cœur qui est dans la crainte. Et puis c'est toi qui vois. C'est toi qui vois. David disait à Dieu, tu seras juste dans ta sentence. Voilà, mais fais ce que tu veux. Ça sera juste. Mais si tu fais grâce, ben... merci Seigneur. Et combien de fois le Seigneur fait grâce et il efface la peine. Alors, revenons à notre inquiétude. Je dis Seigneur, ça m'inquiète. Je ne veux pas rester dans cette inquiétude. Et souvent, en fait, on y reste. Vous savez, on ressasse. Voilà. On a du mal à sortir de cette boucle. Ne vous inquiétez de rien. Bon. Ça, c'est le mot d'ordre, en disant stop cette boucle de l'inquiétude, stop ces pensées qui sont là et qui tournent et qui retournent. D'ailleurs, on n'endort pas souvent. Hein. Hop, j'y mets un terme en les confiant au Seigneur. Seigneur, voilà de quoi j'ai peur, voilà de quoi je m'inquiète. Mets ta paix dans mon cœur. Montre-moi s'il y a quelque chose que je peux faire. Montre-moi, je vais le faire. Seigneur va nous montrer. Peut-être on se dit, mais je ne vais pas avoir la force de le faire. Seigneur nous donnera la capacité de faire ce qu'il veut que nous fassions. C'est-à-dire une chose à faire et qu'il veut que nous fassions, il nous donnera les capacités. C'est lui qui nous rend capables. Et puis pour le reste, eh ben c'est son problème. C'est son problème, c'est son affaire et il s'en charge. Amen. Alors, on va terminer sur une réflexion. Pourquoi est-ce que le Seigneur veut bannir de notre vie l'inquiétude? On va revenir à la parabole. Donc, en Luc, ou en Matthieu, comme on veut. Luc, allez, Luc 12. Alors, dans le grec... s'inquiéter, c'est le verbe merimnao, qui vient d'un nom commun, merimna, qui veut dire l'anxiété, l'inquiétude, les soucis, et qui lui-même vient d'un verbe qui veut dire merizo. Et là, c'est très intéressant parce que merizo signifie couper en parts, diviser en parties, séparer en morceaux. Et l'idée de l'inquiétude, c'est d'être dans notre être intérieur, dans notre énergie, dans nos préoccupations, d'être partagé et coupé en morceaux. Et si vous vous souvenez de la parabole du semeur, lorsque la semence tombe dans les épines et que Jésus donne l'explication de qu'est-ce que c'est que ces épines, la première chose qui vient, c'est les soucis de la vie. les soucis. Après, il y a les richesses, etc. Mais il y a les soucis. Et la parole de Dieu peut être étouffée dans nos vies par les soucis, par les inquiétudes. Et c'est exactement ce qui se passe dans la parabole de Luc 12. Alors, on va relire ensemble Luc 12 et on terminera par cela. Luc 12, au verset 16. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant : Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai : j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme : Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit : Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit ensuite à ses disciples : C'est pourquoi je vous dis. Vous notez ce « c'est pourquoi » hein, il y a un lien direct entre la parabole là et l'enseignement qui nous est donné sur l'inquiétude. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. » Il continue, « Si vous ne pouvez pas la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste ?» Verset 26. Verset 30. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et le verset 33. Vendez ce que vous possédez, donnez-le en aumône, faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne ? Pourquoi est-ce que le Seigneur ne veut pas que nous nous inquiétons, mais que nous allons nous décharger sur lui de nos inquiétudes ? Parce que, sinon, nous sommes comme cet homme qui est dans ses pensées, ben voilà, j'ai une récolte, mais alors comment je vais faire ? Parce que là, je ne peux pas la stocker. Pour la stocker, ben, je vais construire des greniers plus grands. Et il est là, il s'inquiète, il se préoccupe des choses de la vie. Il dit, et le Seigneur Jésus dit, mais ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Voilà. Je ne veux pas que vous mettiez votre énergie, que vous soyez partagé, que vous soyez divisé. Parce que l'énergie qu'on met dans nos inquiétudes, c'est de l'énergie qu'on ne met pas pour être riche pour Dieu. Toute la question est là. Soit je suis riche pour mes inquiétudes, soit je suis riche pour Dieu. Et peut-être nous avons besoin de réaliser que lorsque nous nous inquiétons, on vit dans des tas d'états d'âme, de souffrance, ça tourne, ça retourne, on a peur de ceci, mais on y met une énergie impressionnante. Ça nous prend. Eh bien, c'est une arme de Satan. Ce sont ces épines qui empêchent la parole de Dieu de germer et de pousser des fruits dans notre vie. Mais c'est étouffé par les soucis. Par les soucis qu'on garde. Par les soucis qui nous divisent, qui nous partagent en morceaux. Et du coup, nous ne pouvons pas être riches pour Dieu. Et donc, le Seigneur donne cette parabole d'un homme qui s'inquiète, qui se préoccupe, qui tourne et qui retourne les affaires de cette vie et qui n'est pas riche pour Dieu. Il dit, c'est pourquoi ne vous inquiétez pas, vous vous en occupez pas, parce que c'est le Seigneur, c'est le Père qui s'en occupe, il sait de quoi vous avez besoin, il prend soin de vous, et vous mettez votre énergie à vous faire des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux. Et là, c'est vrai que je me remets en question. À chaque fois que je donne du temps et de l'énergie à des inquiétudes, et ça me trotte, et tu calcules, et tu envisages, et tu es là, ben Dieu, t'es pas riche pour Dieu, parce que tu peux pas être... T'as pas l'esprit libre. Est-ce que c'est pas un piège, l'inquiétude ? Oh, ça peut être poussé à l'extrême, hein. On peut être hypochondriaque. Vous savez, ces gens qui s'inquiètent d'être toujours malades, un jour ils vont attraper une maladie, mais ça les ronge, ça les mange. Comment être riche pour Dieu ? Alors, on prend cet exemple, mais on peut le mettre dans d'autres domaines de notre vie. Eh bien, le Seigneur nous fait un beau cadeau. Il nous dit, tu vois, tout ça, tu peux t'en décharger sur moi. Je t'aime, je prends soin de toi. Je sais ce que je fais avec toi. Il y aura parfois des choses douloureuses que je permettrai, mais rien qui te fissurera, qui t'anéantira. Je t'en fais la promesse. Enlève de toi le chagrin, quelque part. Cette peine, ce chagrin, cette douleur par anticipation sur des choses qui n'arriveront pas ou qui peut-être arriveront, mais enlève. Ça te suffira d'avoir mal quand tu auras mal. Voilà. À chaque jour suffit sa peine. C'est dans le même enseignement. Hein. À chaque jour suffit sa peine. Lorsque l'épreuve est là et qu'elle fait mal, j'ai mal. Inutile d'avoir eu mal pendant 2 ans avant. Voilà. Et le Seigneur veut nous donner sa joie. Et nous allons donc finir en revenant à ce verset phare, Philippiens 4:6, on va le relire, juste pour la route. Philippiens 4:6, pour l'ancrer dans nos cœurs, en sachant que tout ce combat, il est au niveau de nos pensées. Il est au niveau de nos pensées, et Philippiens 4:8 nous le dit. On va le relire. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Le combat de l'inquiétude, il est dans nos pensées. Et le Seigneur nous demande d'occuper nos pensées, de cultiver des pensées qui soient, selon lui, qui soient bonnes, qui soient ajustées. Eh bien, l'inquiétude n'est pas une pensée qui est ajustée devant Dieu. Et lorsque nous cultivons cette inquiétude, sachons qu'on n'est pas dans la volonté du Seigneur, et puis qu'on se fait du mal. Alors moi, je trouve formidable que le Seigneur veuille nous libérer en disant « Arrête de te faire du mal. Moi, j'ai de ces manées, j'ai eu des angoisses par anticipation de ce qui m'attendait. Moi, je savais ce qui m'attendait. Hein? À j'ai de ces manées, est-ce que le Seigneur n'a pas sué des grumeaux de sang ? Ça, c'est la seule angoisse par anticipation qui soit juste. On a besoin de s'en rappeler. Il a été saisi de frayeur et d'angoisse. Il a dit toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Il l'a fait pour que nous puissions ne plus porter nos inquiétudes, mais les lui confier. On va prier. Dans la prière, je vais faire un appel. Un appel pour que ceux qui ce matin veulent prendre vraiment cette décision de dire « Seigneur, c'est vrai que l'inquiétude paralyse une partie de ma vie pour toi et du coup je ne suis pas riche pour toi, je m'inquiète, eh ben je veux m'en libérer et je veux apprendre à te confier, à me décharger sur toi pour élever la main. » Alors on va prier et puis je ferai cet appel et puis vous pouvez signifier quelque part votre décision devant le Seigneur, de renoncer à l'inquiétude et de lui obéir. Seigneur, merci parce que toi, tu as été saisi d'angoisse et de frayeur à Gethsémané, pour que nous puissions nous décharger sur toi. Seigneur, tu nous aimes. Tu as un plan pour notre vie. Tu es fidèle et tu ne permettras pas que nous soyons ruinés, anéantis, fissurés à l'intérieur de nous. Alors, Seigneur, tu vois ces inquiétudes qui sont dans nos cœurs, dans nos pensées. On veut t'obéir pour te les remettre, te faire connaître nos besoins, t'en parler, te les laisser, t'en occuper et te faire honneur, t'honorer de notre confiance, confiance dans ton amour, confiance dans ta bonté, confiance dans ta présence. Seigneur, on veut te demander pardon pour toutes les fois où on ne te juge pas capable de porter nos inquiétudes vu qu'on continue de les porter nous-mêmes. Apprends-nous à changer notre fusil d'épaule pour notre plus grande joie. Alors peut-être ce matin, quelqu'un veut lever la main pour signifier vraiment sa décision de dire « Seigneur, je veux dire non à l'inquiétude dans le combat de mes pensées. » Qui veut ce matin dire au Seigneur « J'arrête, Seigneur, de m'inquiéter. Ouais. Et je veux croire que toi-même prends soin de moi. Je veux t'obéir. Ouais. » Seigneur, loué sois-tu parce que tu es ce Dieu qui nous donne cette joie jour après jour, qui veut nous apprendre à vivre notre vie avec ce chaque jour qui suffit sa peine, sans porter des fardeaux que nous n'avons pas besoin de porter. Des fardeaux que peut-être les païens portent, mais que tu refuses qu'en tant qu'enfants de Dieu nous portions, parce que tu les as portés et tu les portes pour nous. Merci pour cela. Au nom de Jésus. Amen.